ça vaut le détour.
Bonjour et bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mardi 31 mai 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Bienvenue à Ça vaut le détour. Si vous nous écoutez en direct, il est midi. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis. Ça vaut le détour, c'est votre boîte à outils pour contourner les obstacles du handicap. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux en utilisant le mot-clé qui est CVLD ou sur Twitter avec @canal_M. L'été est à nos portes et pour notre toute dernière chronique tourisme de la saison, Isabelle Ducharme nous donne des trucs pour voyager à moindre coût. Il y a une panoplie de choses à faire au Québec et avec un peu de préparation, il est possible de faire des activités, même si notre budget est restreint. La présidente de Kéroul sera dans nos studios à 12h45. En deuxième partie d'émission, on parlera aussi à la globe-trotteuse Audrey Barbeau du blog Voyage, Roulette et sac à dos. Lors de sa dernière entrevue à Canal M en novembre 2015, la Française était en voyage en Thaïlande. On va voir quelles sont ses activités ces jours-ci et ses trucs pour les voyageurs à mobilité réduite. Le premier sommet humanitaire mondial se tenait les 23 et 24 mai dernier à Istanbul. On y a fait une avancée importante pour les personnes en situation de handicap, soit l'adoption de la Charte pour l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire. Madame Miroslava Tatarine, responsable des partenariats institutionnels à Handicap International Canada, pourra nous dire ce que signifie concrètement l'adoption de cette charte. Mais d'abord, on commence notre émission en parlant du 375e anniversaire de Montréal qui aura lieu en 2017. La Société pour les arts en milieu de santé souhaite inclure les aînés qui, après tout, font partie de l'histoire de Montréal avec son projet Les cueilleurs de mémoire. J'accueille en studio Madame Françoise Henry, instigatrice, et Monsieur Kia Tabassian, cueilleur et compositeur. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue
Bonjour.
Dans mon studio.
Merci. Merci.
D'abord, Madame Henry, je vous invite à présenter la mission et l'origine de la SAMS.
Alors, la SAMS, c'est la Société pour les arts en milieu de santé qui a été fondée en 2009 au Québec. Donc, ça fait maintenant 7 ans. Que nous produisons, que nous donnons des concerts dans les milieux hospitaliers, comme son nom l'indique, donc dans les hôpitaux, bien sûr, mais aussi et surtout dans les CHSLD. Alors, notre mission, dans le fond, c'est d'aller semer du bonheur dans ces lieux qui sont parfois un peu moins visités par les arts. Et nous, dans le fond, notre champ d'action, c'est la musique classique particulièrement, mais aussi la musique du monde et le jazz. Donc, par année, on fait environ 600 concerts, un peu partout au Québec. Donc, c'est quand même une belle diffusion.
C'est deux par jour? C'est une moyenne de deux par jour?
En fait, c'est... Oui, même je dirais que c'est plus que ça parce qu'on est en activité d'octobre à mai seulement. Donc, oui, je regarde pas trop ma feuille de travail parce qu'il y a beaucoup d'activités. Mais ça se passe très bien. Nous sommes avec des artistes, des grands professionnels, qui ont à cœur vraiment d'apporter donc leur talent dans ces lieux. Alors, ils sont extrêmement responsables et ils font le lien avec les CHSLD. Toute la communication se passe très bien. Donc, c'est ce qui fait qu'on est capable de réaliser autant de concerts.
Donc, vous travaillez avec des artistes qui sont déjà présents dans chaque région du Québec ou il y en a qui font une tournée québécoise, comment
oui,
ça se passe?
Oui, ça dépend. Dans la région de Montréal, on a un très grand bassin, évidemment, d'artistes. Quand on parle, par exemple, de la région de l'Estrie, ben là, on prend des gens qui sont, par exemple, de Sherbrooke ou des alentours pour desservir leur région. Quand on parle de Charlevoix, par exemple, ben là, c'est des artistes qui sont basés à Québec, qui font le voyage pour... Et moi, c'est un petit peu ma philosophie aussi de dire, bien, faisons travailler les musiciens qui sont dans les régions pour desservir leur propre communauté, dans le fond.
Tout à fait, et aller à la rencontre d'un public qui a peut-être moins l'opportunité de pouvoir sortir dans les lieux de diffusion culturelle, particulièrement la musique.
Tout à fait, et vous savez, dans nos résidents, il y a beaucoup de gens qui ont... dans leur passé, fréquenter les salles de concert. Donc, pour eux, c'est, j'aime pas employer le mot, mais c'est normalisant dans le sens où ça, ça rappelle aussi une vie qui est peut-être passée, mais les plaisirs des arts sont essentiels dans une vie. Et nous, c'est ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on... On les aide à retrouver ce plaisir-là.
Et on a, de toute façon, la musique a démontré depuis longtemps ses bénéfices, en fait, dans le milieu de la santé. On sait que ça a une influence sur le moral, sur le rythme cardiaque même. Il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là. Cette fois-ci, c'est le 375e de Montréal qui est un peu à l'origine de votre nouveau projet, les cueilleurs de mémoire.
Oui, bien, en fait, ça fait maintenant 2 ans que je suis à la Société pour les arts en milieu de santé. Puis dans ma première année, j'ai assisté à plusieurs concerts et j'ai été fascinée par les gens qui assistent à nos concerts. Tu sais, quand on n'a pas l'occasion de visiter beaucoup les personnes en CHSLD, on a l'impression qu'elles sont malades, démunies, tout ça. Mais en fait, quand on apprend à les connaître davantage, on se rend compte qu'il y a beaucoup de richesses, n'est-ce pas, qu'il y a? Et il y a des histoires de vie absolument fascinantes, vraiment. Et donc, je réfléchissais à quoi faire pour célébrer le 375e, et je me suis dit, mais pourquoi pas aller intégrer tous ces gens qui n'auront peut-être pas la chance de participer au 375e. Alors, faisons-les participer. Allons cueillir... leurs souvenirs, leur mémoire, et transformons ça en une œuvre musicale.
C'est vraiment un processus qui est super intéressant. Kia Tabassian, vous êtes vous-même compositeur, musicien,
oui.
Et c'est votre première expérience avec la SAMS.
Oui, en fait, c'est vraiment la première expérience concrète en tant que telle. J'ai beaucoup d'amis qui gravitent autour, oui, bien sûr, et je connaissais un peu le travail exceptionnel, parce que, bon, que Françoise parlait aussi, vraiment, il y a une grande qualité de musiciens qui gravitent autour de cette organisation et qui vont dans ces lieux-là, donc c'est vraiment magnifique de voir des artistes de renommée internationale qui tournent partout, mais qui prennent le temps aussi d'aller à la rencontre des gens un peu plus âgés dans les CHSLD, voilà.
Et donc, cette première phase, en fait, parce que c'est un projet sur plusieurs phases, la première phase est terminée, c'était celle d'aller justement à la rencontre de ces gens, collecter les mémoires, les souvenirs. Vous avez été au cœur de ce processus-là.
Oui, tout à fait. Nous avons, je me rappelle pas exactement le nombre de rencontres qu'on a eues, mais...
Une quinzaine
de rencontres, ouais. Oui, tout à fait. Le nombre de personnes, je me rappelle pas combien, j'avais pas compté, mais c'était 15 rencontres dans 5 différents CHSLD, et c'était des rencontres bouleversantes, en fait, quelque part, parce que nous avons eu des témoignages magnifiques de vie, des choses vécues, c'était très très touchant de se faire confier en fait toutes ces histoires de vie et l'ouverture de ces gens-là aussi. Il y en a vraiment plusieurs qui sont ouverts le cœur et qui nous ont raconté tout leur passé, toute leur vie, tout ce qui leur tenait vraiment à cœur, et c'était très très touchant.
Il y avait plusieurs thématiques qui étaient abordées, entre autres, et beaucoup de choses qui sont liées, à la vie des résidents de CHSLD, mais à l'histoire de Montréal.
Oui, bien, c'est ça le lien, en fait, avec le 375e. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des gens qui sont à un âge où ils ont connu, en fait, le début de la Révolution tranquille. Mm-hmm. Et ça, c'est fascinant de voir à travers leur propre vie le changement qui s'est effectué au Québec. Je veux dire, il y a des gens qui racontaient des histoires qui étaient encore très... où le clergé était encore omniprésent. Et puis, peu à peu, on sentait qu'il y avait une certaine libération.
Oui.
Et puis, on allait vers autre chose. Hein? Alors...
Pour certaines.
Pour certaines, oui, exactement.
C'était intéressant parce qu'on voyait justement... Dans le même groupe de personnes, il y en avait qui, en fait, on provoquait quelque part une discussion même entre eux, entre les résidents. Et différents points de vue émergeaient. Et là, ils disaient, non, moi, j'ai fait ça après. Moi, j'ai pris la décision d'aller, en fait, de me libérer de tout ça. Mais l'autre disait, non, moi, je me sentais pas prisonnière de ça. Au contraire, j'étais très bien là-dedans et je suis resté là-dedans. Donc, on voyait vraiment toute cette discussion aussi qui... cette dynamique entre eux et voilà, toutes différentes évolutions que les gens ont pris dans cette ville, Montréal. Ils ont tous vécu dans la même ville, mais...
Mais pris des chemins très, très différents pour plusieurs. Kia Tabassian, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez enregistré ces souvenirs? Et qu'est-ce que vous faites après? Parce que là, c'est vers cette nouvelle étape où on s'en va. Là. C'est la composition des œuvres.
Oui, ah oui, c'est sûr que la prochaine étape, qui est déjà entamée d'ailleurs, c'est la composition. Mais pour répondre à votre question, oui, tout a été enregistré. Tout a été documenté pour les fins d'archives. Hein. On ne va pas publier ça nécessairement. Donc, avec deux professionnels qui nous accompagnaient dans toute la rencontre, filmés et enregistrés audio. Donc, toutes les voix sont enregistrées parce qu'on a eu des témoignages. À la fois, les gens nous racontaient des histoires. Des fois, ils nous chantaient des choses. Des fois, les personnes nous chantaient. Il y avait la musique qui sortait. Entre autres, il y a un monsieur de certain âge qui a commencé à chanter, mais il n'y avait plus de voix vraiment pour chanter. Mm-hmm. Pendant une minute et demie, il a chanté de tout son cœur. Tout son cœur a vibré, mais il n'y avait pas vraiment de son musical qui sortait. Mais on l'entendait. On entendait qu'il y avait quelque chose qui se passait dans sa tête. Pendant une minute et demie, il chantait profondément, il chantait quelque chose qu'il avait chanté.
C'était vraiment touchant. Ça doit être très inspirant pour vous.
Oui, tout à fait. On a documenté tout ça. Donc, tout ça, ça va servir un peu comme matériel de base. Et toutes ces histoires vont nous servir aussi à éventuellement avoir le texte, des chants qui vont être chantés. Mais aussi, c'est ça, c'est un processus de création pour moi qui est vraiment, s'échalonne dès le début du projet. Parce que dès le début, quand on a commencé la rencontre, je savais que je voulais écrire une œuvre. J'étais là pour ça. Donc, c'est un long processus de création. Ça veut dire que j'ai pris beaucoup de notes, j'ai beaucoup d'idées qui ont été notées et, tout au long de ces rencontres. Et voilà, à un moment donné, bientôt, en fait, l'œuvre va naître. Je vais écrire, finaliser cette œuvre-là qui sera créée je crois en avril prochain, en avril
exactement.
2017.
Justement, dans quel contexte est-ce que cette œuvre ou ces œuvres, on ne sait pas encore quelle...
C'est une grande œuvre où il y a plusieurs mouvements, mais voilà.
Et donc, une grande œuvre, dans quel contexte est-ce qu'elle sera présentée?
Bien, elle sera créée d'abord au concert bénéfice de la société. Alors, ça va être une occasion de célébrer. Ça va être l'année du 375e. Alors, on va offrir cette pièce-là à nos donateurs, aux gens qui seront là. Et ensuite, c'est évidemment pensé pour qu'on puisse faire la tournée des CHSLD, des hôpitaux. Parce qu'en fait, l'idée, c'est la musique pensée par les résidents, qui passe par Kia, puis ensuite qui est redonnée aux résidents en espérant que tous ces résidents-là aussi se reconnaîtront quelque part dans ce qui sera évoqué.
Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vraiment, on boucle la boucle.
Exactement.
Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être une opportunité, une ouverture de la part de la Ville de Montréal, peut-être, pour présenter le résultat de ces œuvres en public, dans le cadre... Je me lance comme ça, le Festival international de jazz.
Bien, Ville de Montréal, si vous êtes à l'écoute. Tout à fait partant.
Oui, pour je pense l'instant, que c'est une œuvre qui va être diffusée d'ailleurs. Parce que, voilà, j'aimerais aussi mentionner le nom de Suzy Leblanc, qui est la soprano avec qui nous travaillons aussi, qui est un part important dans le projet. Et Steve Normandin, joueur d'accordéon aussi, qui a amené aussi dans nos rencontres tout ce côté. Il chante beaucoup les chants traditionnels, les chansons populaires des années 50-60. Donc, il a amené beaucoup aussi tout cet aspect de ces souvenirs-là chez les résidents. Mais l'œuvre va être écrite pour ce trio. Peut-être un instrument qui va s'ajouter, on va voir. Mais il y a Steve Normandin qui joue l'accordéon, qui chante. Suzy Leblanc, la soprano. Et moi-même au setar.
Oui, exactement, parce que vous êtes joueur de setar. On a mis l'accent plus sur votre travail de compositeur en ce moment, mais vous êtes aussi musicien. En terminant, si on veut avoir plus d'informations, si on veut suivre le développement de l'œuvre, comment on fait?
Alors, sur notre site web, samsanté.org, il y a une page qui est dédiée au projet qui s'appelle « Mémoire vive », qui est l'ensemble du projet. Et cette première phase-là, elle a été rendue possible grâce à la Fondation du Grand Montréal. J'aimerais le souligner parce que c'est important de les remercier. C'est un projet de mémoire. On n'en manque jamais. il faut entretenir cette mémoire-là pour savoir où on s'en va. Hein?
Tout à fait. Merci surtout d'aller chercher des souvenirs, d'aller chercher les gens où est-ce qu'on va rarement les trouver. Merci beaucoup, Françoise Henry, instigatrice du projet et aussi de la SAMS et Kia Tabassian, cueilleur et compositeur. Merci d'avoir été
Merci
avec nous aujourd'hui.
Merci. Au revoir.
Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire et ces visages d'enfant et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur. Une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore. Même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent. Tant qu'ils se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps, les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser, un baiser. Encore un soir. Encore une heure, un peu de nous, un rien de tout.
Un soir. Encore un soir de Céline Dion. Son tout nouvel extrait est une pièce écrite par Jean-Jacques Goldman. Ils font tous les deux vraiment un très bon duo. C'est son album à venir, donc on ouvre les oreilles. Un extrait très intéressant, très mélodique. Céline Dion, qui est une de nos ambassadrices à l'international. On se penche, justement, on va faire une incursion du côté international, car récemment, il y a eu lieu le premier sommet humanitaire mondial qui se tenait le 23-24 mai dernier à Istanbul. On y a fait une avancée importante pour les personnes en situation de handicap. Pour nous en parler davantage, je joint au téléphone Madame Miroslava Tatarine, responsable des partenariats institutionnels à Handicap International Canada. Bonjour.
Bonjour.
D'abord, pouvez-vous nous résumer qu'est-ce que ce sommet humanitaire mondial qui s'est tenu récemment à Istanbul?
Bon, le secrétaire général des Nations Unies a convoqué le sommet à cause de l'échelle des crises humanitaires dans le monde actuellement, particulièrement le fait que le monde n'a pas vu autant de personnes déplacées depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Et de quel sujet plus précisément vous avez parlé lors de ce sommet?
Bon, le secrétaire général, en définissant le sommet, a nommé 5 responsabilités clés qu'il voulait discuter lors du sommet, y compris la prévention, la cessation des conflits, le respect des règles de la guerre, aussi des façons à travailler autrement pour mettre fin aux besoins. Alors, comment est-ce qu'on peut investir dans des groupes locaux, des groupes communautaires? Comment est-ce qu'on peut mieux distribuer l'aide qui se présente lors des conflits? Et aussi pour faire certain que personne n'est laissé à côté. Et c'est là vraiment que Handicap International est intervenu sur cette thématique-là.
Justement, quand on parle d'aide humanitaire, on parle de l'aide apportée par les gouvernements et les ONG lors des conflits et des catastrophes naturelles.
Oui, c'est ça. Ça peut s'agir des services de santé, de l'enregistrement et d'hébergement des personnes déplacées. Ça s'agit d'assurer leur protection et aussi leur accès à l'eau, à l'assainissement et d'autres besoins de base.
Et dans chaque population, il y a des personnes en situation de handicap, mais chaque conflit peut créer aussi d'autres situations de handicap. C'est là où est-ce que Handicap International est très actif sur les terrains. Qu'est-ce qui, pour vous, a été justement le point fort de ce sommet, l'adoption de la Charte pour l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire? Qu'est-ce que ça signifie concrètement, Madame Tatarine?
Bon, la Charte donne une occasion aux différents intervenants, soit des gouvernements et d'autres associations internationales et aussi des associations des personnes handicapées, à publiquement adhérer et montrer leur promesse à la réduction ou pour la réduction des barrières qui empêchent les personnes en situation de handicap avoir accès aux services humanitaires lors des conflits ou des catastrophes naturelles. Alors, ça détaille et ça demande un engagement pour enlever ces barrières-là.
Et en quoi l'aide humanitaire actuelle n'inclut pas suffisamment les personnes en situation de handicap?
On peut dire qu'en général, les personnes handicapées ont les mêmes besoins de base que les personnes non handicapées. Mais ils font souvent face aux barrières quand ils essaient d'accéder à cette aide. Alors, on peut imaginer quelqu'un en situation de mobilité réduite qui se trouve déplacé, réfugié dans un autre pays. Peut-être dans leur fuite de leur pays, ils n'ont pas pu amener avec eux les aides de mobilité comme leur béquille ou leur chaise roulante. Ils se trouvent en camp de déplacés ou peut-être dans un milieu urbain où ils n'ont pas beaucoup de choix comme étrangères. Ils n'ont pas le choix d'hébergement. Alors peut-être ils sont obligés, par exemple, on voit des cas dans la crise syrienne, en Jordanie, au Liban et autres pays limitrophes à la Syrie, qui où les réfugiés se trouvent dans un appartement de 4e ou 5e étage, alors que la personne est paralysée. Alors, c'est très difficile après de sortir, de s'engager avec leur communauté et d'avoir accès aux besoins nécessaires.
Mm-hmm.
Mais il y a aussi d'autres barrières pour les personnes au niveau de l'information et aussi au niveau des attitudes des personnes qui leur entourent.
Oui, tout à fait, et même au niveau de la barrière de communication. Et surtout, comme vous l'avez mentionné en début d'entrevue, ces nouveaux phénomènes de migration des populations, ça engendre des nouveaux besoins. En terminant, Mme Tatarine, le secrétaire général des Nations Unies a insisté sur le fait que la charte n'était pas une fin en soi. Elle a insisté sur l'importance que les principes dans le texte soient réellement mis en œuvre. On suppose que Handicap International sera aux aguets pour que la charte se traduise par des avancées concrètes.
Bien sûr. Premièrement, on essaie de présenter les bons exemples des prestations de services inclusifs dans tout le travail qu'on fait actuellement à travers le monde. Et aussi, on est en mesure d'accompagner d'autres prestataires de services qui répondent aux crises en améliorant leur capacité de rendre leur activités, leurs projets inclusifs et accessibles à tout le monde, que ce soit dans le domaine d'éducation ou santé ou autre.
Et donc, ça va vraiment se traduire par des avancées, des initiatives sur le terrain.
C'est ça qu'on espère, oui.
Et en terminant, si on veut suivre plus en détail, si on veut avoir plus d'informations sur ce traité et sur vos activités Handicap International Canada, comment on fait? Où est-ce qu'on se présente?
Bon, on a un site web pour handicap-international.ca. Et de là, vous trouverez beaucoup d'informations sur nos activités. Et aussi, on trouvera sur l'Internet des sites onusiennes et aussi des ONG qui détaillent plus le progrès qu'on fait par rapport à cette charte.
Merci beaucoup. Merci de travailler avec les personnes en situation de handicap à l'international. Votre rôle est très important. Madame Miroslava Tatarine, je rappelle que vous êtes responsable des partenariats institutionnels à Handicap International Canada. On vous joint à Toronto aujourd'hui. Merci d'avoir pris quelques minutes pour nous parler.
Merci beaucoup à vous. Bonne journée.
Donc, en deuxième partie d'émission, on continue sur notre lancée. L'été s'en vient, les projets de voyage et de tourisme aussi. Restez avec nous avec Audrey Barbeau et Isabelle Ducharme.
Sur les ondes du canal M, vous écoutez « Ça vaut le détour » avec Maxime D. Pomerlo.
Toujours à « Ça vaut le détour », je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux avec le mot-clé qui est CVLD ou sur Twitter, @canal_M. Et on traverse l'océan pour rejoindre notre prochaine invitée avec son sac à dos, son ordinateur, son goût de l'aventure. Elle conseille ses lecteurs sur le Handi Voyage, le voyage accessible aux personnes à mobilité réduite. On lui parle depuis la France. Bonjour Audrey Barbeau.
Bonjour Maxime.
Ça va bien?
Oui, bien, merci.
Oui, Audrey, vous êtes blogueuse, vous êtes éditrice du blog Voyage, Roulette et Sac à dos. La dernière fois que vous avez eu une entrevue à Canal M, c'était à Ça vaut le détour en novembre 2015. Vous étiez en Thaïlande. Où êtes-vous en ce moment?
Alors là, en ce moment, je suis chez moi en France, en Bourgogne.
Donc, on est revenu du voyage. Combien de temps vous étiez partie?
Alors en Asie, je suis partie 3 mois en tout, donc 2 mois en Thaïlande, une quinzaine de jours au Vietnam, et puis une quinzaine à Hong Kong. Donc je suis revenue en fait début janvier.
Ce n'était pas votre premier gros voyage. Depuis quand voyagez-vous à travers le monde?
Alors ça fait depuis fin 2012 maintenant. Et on va dire, là, c'était quand même mon plus gros, on va dire mon voyage le plus long. Voilà, j'étais déjà partie, par exemple, aux Antilles ou aux États-Unis. Mais voilà, trois mois toute seule, non, c'était la première fois.
Est-ce que vous voyagez toujours seule?
La plupart du temps. La plupart du temps, oui, je pars seule. Ça m'arrive de partir avec des amis ou en couple, mais non, majoritairement, c'est seule, tout simplement pour... parce que voilà, parce que j'adore voyager, que je j'attends pas forcément que quelqu'un ait les mêmes envies que moi au même moment. Donc voilà.
Et on va faire un rappel, en fait, une mise en contexte. Audrey Barbeau, vous utilisez un fauteuil roulant motorisé. Par contre, vous pouvez marcher sur de très courtes distances, par exemple à l'intérieur d'un appartement, tant qu'il n'y a pas de marche ou d'obstacle majeur. Comment est-ce que vous conjuguez justement cette mobilité dans vos voyages?
Bah en fait, c'est la comment ma mobilité, elle est la même en voyage qu'au quotidien au final. Sauf qu'en voyage, voilà, il faut trouver par exemple un logement qui soit accessible ou ce genre de choses. Il y a pas les repères rassurants, les habitudes qu'on peut avoir au quotidien. Mais sinon, oui, les problématiques d'accessibilité essentiellement sont les mêmes en voyage ou dans la vie de tous les jours.
Voyez-vous des différences selon les pays dans lesquels vous voyagez?
Oui, de grosses différences, je dirais. Par exemple, aux États-Unis, sur la côte californienne, c'est vrai que c'était quand même assez simple de voyager, de se déplacer, d'aller dans des parcs nationaux, ce genre de choses. Voyager en Asie, notamment en Thaïlande, c'est vrai que c'est pas réputé pour avoir une très bonne accessibilité. Et en effet, il y a pas mal d'endroits où c'était un peu galère, un peu sportif, on va dire. C'est un peu un challenge, ce voyage en Asie.
Et justement, ce sont des défis que vous aimez relever, que vous aimez aussi, l'expression pourrait être couché sur papier, mais maintenant c'est plus blog, on est plus dans le numérique. Pourquoi avoir choisi de raconter vos aventures dans le blog Roulette et Sac à dos?
Alors en fait, au départ, c'était vraiment pour partager en fait mes expériences, mais les bons plans, ce genre de choses. Parce que quand j'ai commencé à partir, je me suis rendu compte que c'était très compliqué des fois d'avoir des informations qui étaient fiables. Et donc je me suis dit, moi, les expériences que je vais vivre, les informations que je vais vraiment trouver dans lesquelles moi là j'ai confiance, je vais les partager au plus grand nombre pour que ce soit utile à d'autres, quoi. Donc c'était vraiment ça dans l'idée du partage, et aussi pour montrer que oui, on peut voyager même en fauteuil.
Et est-ce que la plupart de vos lecteurs sont eux-mêmes en situation de handicap ou c'est vraiment, ça peut rejoindre en fait beaucoup de gens, ça peut même inspirer plusieurs personnes qui travaillent dans le milieu du tourisme?
Oui, alors il y a un joli mix. Alors je pourrais pas dire exactement les pourcentages parce que je le connais pas, c'est compliqué à savoir. Mais oui, il y a et des personnes qui sont touchées directement par un handicap, d'autres qui ne le sont pas du tout parce qu'il y a des informations qui peuvent être utiles à tout le monde, ou simplement certaines personnes. C'est vrai qu'il y a un côté challenge qui peut inspirer un peu tout le monde, ou bien des professionnels du tourisme. Enfin, il y a vraiment un joli melting pot.
Audrey Barbeau, en février dernier, vous avez fait paraître un article « Top 5 de mes pires galères d'avion en fauteuil roulant ». Pouvez-vous nous raconter quelques-unes de ces mésaventures?
Oui, alors je crois que je vais commencer par la pire. C'est justement lorsque je suis revenue de ce voyage en Asie, pendant le vol Hong Kong-Paris, mon fauteuil a été cassé. Donc ça c'est la grosse tuile, c'est-à-dire qu'il est complètement inutilisable. À l'heure actuelle, je ne l'ai toujours pas. Donc voilà, ça je crois que c'est de loin la plus grosse galère de fauteuil qui m'est arrivée, c'est voilà, le fauteuil qui est rendu complètement inutilisable et voilà, mais sinon à chaque fois en fait, c'est assez récurrent que le fauteuil sinon ait des petits, un peu de casse en soute dans les trajets en avion, ça arrive trop régulièrement.
Et donc, que faites-vous depuis février si vous n'avez toujours pas récupéré votre fauteuil? Est-ce qu'il y a une responsabilité qui a été donnée au transporteur, à l'aéroport? Comment on peut... Quelles leçons avez-vous tirées de ces mésaventures?
Alors ça, c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu flou. Donc là, depuis mon retour, en fait, je loue un fauteuil roulant électrique en attendant. Et en fait, oui, je suis rentrée en contact avec la compagnie aérienne. Mais le problème, c'est que en fait, il y a un devis de réparation sur le fauteuil. Il y en a pour 1 200 € de réparation. Et en fait, la compagnie aérienne m'a renvoyé un courrier en disant que bon, allez, il voulait bien prendre 200 € à leur charge. Donc voilà, sur les 1 200. Donc voilà, je suis très très en colère parce que voilà, mais là à l'heure actuelle, je ne sais pas encore quel recours je peux avoir ou pas. En plus, une compagnie aérienne qui est russe, donc c'est pas la même législation. Enfin voilà, c'est pas évident.
Mm-hmm. Utilisez-vous plus le train ou l'avion lorsque vous vous déplacez?
C'est variable. De manière générale, je préfère prendre le train. Après, pour les longues distances, je prends l'avion.
Et sinon, dans les villes, lorsque vous visitez, quels moyens de transport vous utilisez davantage? Ou peut-être que vous vous promenez tout simplement avec votre fauteuil à pied?
Oui, alors quand je peux, je fais pas mal de kilomètres juste en fauteuil. Et sinon, les transports en commun, tout simplement.
Et les systèmes de transport en commun, vous trouvez facilement de l'information pour savoir quoi prendre pour si le bus ou le métro, par exemple, dans une grande ville, est accessible?
Là encore, c'est variable. Par exemple, voilà, aux États-Unis, à Barcelone, ce genre de choses, c'est assez simple à trouver. Et des fois, c'est un peu, c'est très, très, ça peut être très compliqué. Voilà, parce que les informations, par exemple, à Bangkok, j'avais trouvé une carte avec des stations étaient censées être accessibles, mais en fait, elles ne l'étaient pas. Enfin, voilà, c'est variable. C'est vraiment très variable d'un pays à l'autre.
Justement, avec toutes ces variables que dont vous devez tenir compte, comment est-ce que vous vous préparez avant de partir en voyage? Faites-vous affaire avec des agences qui ont peut-être déjà de l'information à votre disposition ou vous faites votre recherche vous-même?
Alors, majoritairement, en fait, j'organise tout de moi-même, de A à Z, en fait. Il n'y a qu'une seule fois où je suis partie, on va dire, avec l'aide d'une agence au Vietnam, Rolling Asia. Mais sinon, non, c'est tout par moi-même, tout en cherchant sur Internet, en essayant d'avoir des contacts, en contactant des offices du tourisme, des associations, enfin, ça peut être long.
Oui, effectivement. Et donc, c'est là où est-ce que votre blog devient une bonne ressource pour les voyageurs qui souhaitent suivre votre trace. Il nous reste quelques minutes. Vous avez un nouveau projet qui n'est pas banal. Vous souhaitez faire de l'alpinisme au Mont-Blanc en France. Pouvez-vous nous parler de cette nouvelle aventure?
Oui, en fait, c'est un projet qui me tient à cœur, en fait, qui est mené à l'initiative des sapeurs-pompiers de Paris. Donc en fait, on va être 3 personnes en situation de handicap à aller justement faire de l'alpinisme avec eux sur le Mont Blanc. Donc en fait, c'est grâce à eux. En fait, ils vont vraiment nous emmener par le biais en fait de poulka, un genre de traîneau, voilà, où on va être installé dedans et ils vont se relier pour pouvoir nous partager leur la montagne avec eux qui est assez inaccessible sinon. À part ce biais-là, quoi.
Vous avez lancé une campagne de financement pour le projet.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, même si l'équipe de bénévoles, d'infirmières, ce genre de choses, est complètement bénévole, le matériel, enfin, l'allocation de matériel, les guides d'eau de montagne, ce genre de choses, ça coûte cher. En fait, on a besoin en fait, de récolter 8 000 € au total, et ce, avant le 20 juin. Donc voilà, on commence à être un peu inquiet. On aimerait bien que la cagnotte monte pour pouvoir nous permettre de réaliser ce projet qui, normalement, devrait avoir lieu début juillet.
Début juillet, donc cet été, vraiment, parce qu'effectivement, il est possible de l'escalader, en fait, à l'année longue. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que ce soit l'hiver. En terminant, Audrey Barbeau, est-ce qu'il y a d'autres projets de voyage en vue?
Oui, alors il y a des projets notamment en Allemagne, peut-être au Québec, je viendrai peut-être vous voir, mais c'est pas encore sûr, et sinon retourner en Asie.
Ouh, le Québec, venez au Québec. On est très heureux d'avoir, d'avoir de vos nouvelles. Et en terminant, rappelez-nous les divers médias sociaux où on peut vous suivre, parce que je suis moi-même déjà, en tout cas, abonnée à votre compte Instagram où vous publiez des photos des divers lieux que vous visitez. Quelles sont les autres plateformes où on peut vous suivre? Sous quel nom on peut vous trouver?
Alors, il y a donc le blog, le Facebook, l'Instagram, Twitter, également Snapchat. Donc le Facebook, c'est Roulette et sac à dos, tout simplement. Et sinon, Instagram et Twitter, c'est Audrey Roulette.
Audrey Roulette, on retient ça. Roulette et sac à dos, donc Roulette au pluriel, trait d'union et trait d'union sac, trait d'union à trait d'union dos. On va mettre le lien sur la page de l'émission. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous parler aujourd'hui. On vous souhaite une belle soirée parce que vous commencez votre soirée en France. Merci Audrey Barbeau du blog Voyage Roulette à sac à dos. On vous souhaite de très belles aventures.
Merci Maxime. La ravissante Michelle O, Tu souris pour lui plaire ou lui montrer les dents, de son album, son nouvel album L'amour violet, vraiment une artiste que je souhaite qu'il soit mise plus de l'avant, qu'on entende plus, vraiment à découvrir. Et Isabelle Ducharme, présidente de Kéroule, tu es déjà dans nos studios.
Oui.
Bonjour.
Ça m'a fait plaisir d'écouter l'entrevue précédente.
Oui, justement.
On tombait dans mes cordes.
Ben, tout à fait. C'était vraiment une deuxième partie d'émission, en fait, axée sur le voyage, sur le tourisme. Qu'as-tu pensé des aventures qu'Audrey nous témoignait? Est-ce que ce sont des choses qui te sont déjà arrivées?
Absolument. Heureusement, dans mon cas, j'ai jamais eu mon fauteuil roulant non fonctionnel. J'ai déjà eu à le faire réparer, mais j'ai jamais eu de bris majeur. Et des fois, ça m'est peut-être arrivé une fois rendu à destination, sinon les autres fois, c'était au retour à la maison. Fait que c'est toujours moins inquiétant. On sait où sont les endroits où on peut faire réparer tout ça. Je l'écoutais, puis je me disais que j'avais envie de poser la même question que bien des gens me posent à chaque fois que je voyage, qui me disent « Mais comme il y a toujours plein de pépins, pourquoi tu continues à voyager? » Dans mon cas, la réponse est toujours la même, c'est que malgré les pépins, des fois pour se rendre, des fois arriver à destination, l'hébergement n'est pas exactement comme on s'y attendait, le bonheur de vivre ces moments-là emporte la palme sur tout le reste. Je reviens d'un 4 jours en chalet, je suis arrivée là-bas, c'est un lève-personne électrique. Et il avait été branché toute la journée, mais le fil était ressorti un peu, on ne l'avait pas vu. Fait que le matin, j'ai été obligée de rester couchée une heure de plus le temps qu'il se recharge et que je puisse sortir du lit. Puis au retour, c'est mon véhicule qui a brisé, la suspension a lâché. J'étais pris une heure sur le bord de la route à attendre CAA. Puis après ça, heureusement, à trouver à Magog, un taxi accessible qui était capable de venir me chercher. Mais ça... Pour moi, c'est un moment éphémère. Ce qui reste dans ma mémoire, c'est les beaux moments passés au chalet, en bonne compagnie, en forêt, vue sur le lac, etc.
Tout à fait, parce que justement, les simples exemples que tu viens de nommer seraient suffisants pour décourager des gens ou même se dire « Non, je vais rester chez moi et je vais regarder des films et je suis très heureux comme ça », ce qui est très bien aussi. Mais oui. Effectivement, on sentait aussi dans les propos d'Audrey, dans les tiens, la passion, le goût de découvrir, la curiosité aussi et d'aller vers l'autre, d'aller découvrir de nouveaux territoires.
En gros, de sortir du quotidien, des soucis du quotidien, des fois de l'espèce d'endormitoire qu'on a aussi là, à se dire, bon, on est dans notre petit confort, puis dans le fond, tout aussi... Mais tu sais, c'est un peu se fermer aussi au monde, puis manquer des beaux moments.
Et pour ne pas manquer ces beaux moments, il y a de la planification que nous pouvons faire. Oui. Et tu es venue nous donner quelques pistes, mais entre autres, on arrive de parler de l'international, ça fait beaucoup rêver, mais il y a beaucoup de choses qui se passent au Québec.
Oui. En fait, ce que j'avais le goût de partager avec vous comme dernière chronique, c'était souvent les gens me disent « Oui, voyager ou je vais faire le tourisme, c'est le fun, mais ça coûte cher. » Et moi, je viens un peu vous parler de comment on peut le faire ici ou ailleurs sans que ça nous coûte des méga budgets. Et la première solution, si vraiment c'est l'international qui nous intéresse, bien, ça pourrait être de décider de faire du travail ou des études à l'international. Donc, on va soit aller dans des œuvres humanitaires, soit il y a plein d'options, dont pour les plus jeunes, avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse ou avec des permis vacances-travail, entre autres, un échange entre la France et le Québec, mais ça se fait aussi avec d'autres pays. Donc, on va visiter d'autres pays, mais en même temps, on se ramasse des sous en travaillant où on a aussi le sentiment là, de redonner, pas juste de prendre à l'autre pays.
Et il y a des programmes donc qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap, si on parle même d'aller faire du bénévolat dans un organisme. C'est sûr, qui ont des structures pour recevoir les gens.
Quand on arrive dans des œuvres humanitaires, ça devient un petit peu plus complexe. Il faut vraiment poser plus de questions. Mais dans des permis vacances-travail, à ce moment-là, c'est nous qui faisons notre propre recherche de travail. Donc, on le fait en fonction de notre réalité. Et la même chose avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Il y a quand même moyen là, de voir avec eux, en expliquant nos besoins spécifiques, qui nous aident dans nos démarches là, pour trouver les endroits appropriés. Pour les études, c'est la même chose. Maintenant, Je suis dans mes dernières semaines pour décider si je vais faire mes études ailleurs. Mais quand je fais des recherches un peu dans des universités comme en Californie ou ailleurs, ils ont des chambres adaptées pour les étudiants qui sont en situation de handicap, tout ça. Donc, il y a quand même là, plusieurs options qui peuvent se présenter pour l'international. Si on regarde maintenant plus près de chez nous, une des façons les plus simples, des fois, de faire des petites activités, c'est de devenir membre de différents organismes qui organisent des activités, comme ici à Montréal, il y a Vie Autonome qui va organiser des petits barbecues, des sorties cinéma. Donc, ça peut être différentes façons là, de vivre du tourisme et sans avoir à dépenser des grosses sommes parce qu'eux vont soit en couvrir une partie ou organiser des activités justement qui vont être à moindre coût avec des frais moindres aussi pour les personnes qui sont membres. Je sais que moi, l'Épinière et Motricité Québec le font aussi. Donc, des fois, soit des organismes qui nous touchent directement, donc de notre pathologie, ou des organismes plus larges, là, comme Vie Autonome.
Ou même Aventure Évasion Accessible, qu'on avait déjà reçu exactement. Canal M, qui crée des partenariats, eux, avec justement différents lieux d'activité pour réduire le coût de l'activité. Et c'est ouvert à tous, personnes handicapées et non handicapées. Donc, il y a plusieurs options. Est-ce que si on décide de sortir de la ville, si on décide de se promener de région en région, de faire du tourisme intérieur et de découvrir le Québec, il y a des moyens de transport
à conseiller? Je sais que j'en ai déjà parlé, mais je voulais quand même faire un petit rappel qu'il y a les autocars, toujours, qu'on peut avoir l'accompagnateur gratuit si on a des besoins spéciaux. Il y a aussi les trains qu'on peut avoir l'accompagnateur gratuit. Et peu de gens le savent, mais qu'on ait un handicap ou non, si on fait nos réservations via le site web les mardis ou même par téléphone avec Via Rail, on a des gros rabais. C'est une grande différence. Déjà, en le faisant par Internet, on a souvent du plus que 50 % de rabais, mais encore, on a un rabais supplémentaire si on fait notre réservation le mardi, qu'on parte un samedi, un dimanche, peu importe la journée de la semaine, mais si on appelle ou on réserve un mardi, c'est beaucoup moins cher. Donc, c'est des choses à retenir. Les gens aussi, des fois, qui sont peut-être moins, qui sont capables de se transférer dans un véhicule, il y a toujours les solutions comme AlloStop, donc qu'on appelle, qu'on va sur le site web, on
c'est
dit...
anciennement AlloStop, Amigo Express.
Oui, exact. Oui, effectivement, vous avez bien raison. Donc, possibilité de dire, moi, je vais aller à Drummondville, j'ai besoin d'un lift, y a-t-il quelqu'un d'autre qui part? Et là, donc, c'est aussi une grande différence de prix. Pour les personnes autonomes, il y a toujours le Bixi maintenant qui est gratuit tous les derniers dimanches du mois. Donc, si on veut l'essayer une première fois, c'est peut-être une bonne option avant de savoir si on veut prendre la passe pour le mois, etc. Il y a toujours, bien sûr, les options de transport en commun qu'il ne faut pas oublier, qui sont disponibles ici ou ailleurs, donc dans les localités, etc. Donc, dans les transports, là, je vous dirais qu'en gros, c'est ça. Peut-être la possibilité aussi d'utiliser des locations de voitures, mais communautaires, là, t'sais, pour une journée ou pour faire une commission, etc., du style communauto et autres, là, qui est toujours possible.
Et si on parle en termes d'hébergement, rapidement, il y a plusieurs lieux. On avait déjà parlé des parcs de la CEPAC qui étaient de plus en plus accessibles dans une chronique précédente. Mais il y a plusieurs choses, les auberges.
Mais il y a entre autres des chalets, on oublie des fois, mais il y en a de toutes les grandeurs, de tous les types, des plus luxueux, des plus de base. Mais en loin, un chalet en gang, déjà à plusieurs, bien, ça fait que ça nous coûte moins cher. Et on peut se faire notre propre bouffe. Donc, déjà, on ne mange pas au restaurant. Donc, on peut profiter quand même des activités en région. Ça va nous coûter moins cher que si on paye un hébergement. Puis, il y a toujours, je pense, la dernière fois, je vous avais parlé aussi des échanges de maisons accessibles. Et j'ai trouvé le site. Donc, c'est matchinghouses.com. Donc, vous avez une maison, un appartement adapté. Vous voulez échanger. La personne qui va, vous voulez aller en Italie. Une personne de l'Italie va venir dans votre maison. Puis, vous allez dans sa maison. Donc, déjà là, c'est moins cher que d'avoir à se louer un hébergement.
Et en plus, on peut se douter que la maison est déjà accessible.
Voilà.
Peut déjà
on a des photos, etc.
Peut déjà répondre à certains de nos besoins. Finalement, quelques suggestions pour l'été.
Les gens oublient souvent qu'on a plein de festivals. On est chanceux au Québec, plein de festivals gratuits. Profitez-en. Allez sur attractionsevenements.com. d'aller avoir une idée pour toutes les régions du Québec, quelles activités ont lieu dans votre région. Il y a toutes les infolettres aussi, des régions touristiques, des attraits que vous pouvez vous informer, vous abonner, puis on va vous dire à chaque saison c'est quoi les activités. On va souvent vous mentionner, si vous réservez d'avance pour une activité payante, pour un spectacle, vous allez pouvoir avoir des rabais. D'ailleurs, vous avez un passeport vacances, qui est le passeport pomme. Je ne sais pas si vous connaissez un peu, là, mais il y a toujours la belle image des fameux pains pommes sur le dessus. Mais vous avez toutes les activités qu'ils peuvent avoir dans des régions, mais à la fin, vous avez une panoplie. Je pense que c'est jusqu'à 1 000 de coupons rabais pour différentes activités au Québec. Et n'oubliez pas la vignette d'accompagnement touristique qui est toujours pratique aussi pour les gens qui ont des limitations et qui doivent être accompagnés. Et finalement, boutique Voir, allez sur le site et vous investissez 100 $ dans un restaurant, bien, on va vous donner 140 $ pour dépenser là-bas. Donc, c'est d'une majoration de 30 à 40 % à part au montant que vous mettez.
Ça peut être vraiment plein d'options intéressantes. Merci beaucoup, Isabelle Ducharme.
Ça fait plaisir.
Une belle collaboration tout au long de la saison. On te souhaite un bel été, belle saison estivale. Au plaisir de te recevoir à nouveau dans nos studios.
Avec plaisir.
C'est ce qui met fin à notre programme aujourd'hui. Je remercie tous mes invités qui nous ont partagé de beaux moments aujourd'hui, leur expertise, leurs connaissances. Je remercie mon équipe technique à la recherche et aux médias sociaux, Christiane Campagna, à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À très bientôt.